Truelle et Sac à dos, l'émission qui vous parle de médiation en archéologie. Truelle et Sac à dos vous proposent des rencontres, des découvertes de lieux et d'objets permettant d'évoquer la médiation en archéologie et les différents métiers qui la composent. Quel est le véritable rôle de la médiation en archéologie et quels sont les outils pour la mener à bien? Nous tenterons de vous révéler tous ces secrets.
Bienvenue sur le podcast de Truelle et Sac à dos. L'archéologie est une science qui permet d'enrichir nos connaissances en histoire en complément des traces écrites. Pour certains thèmes, seule l'archéologie nous permet de comprendre le mode de vie des populations à une époque donnée. L'archéologie est une discipline encore mal connue du grand public et ce, encore plus que l'histoire. Cette émission, et plus généralement le podcast Truelle et Sac à dos, vise à remédier à cette méconnaissance en donnant une voix à ceux qui n'en ont pas. Aujourd'hui, nous allons découvrir celle de Gaëtan Lecloirec. Bonjour Monsieur Lecloirec, est-ce qu'on peut commencer par une petite présentation, votre parcours universitaire, professionnel, l'arrivée à l'INRAP ?
Bonjour, moi j'ai fait mes études à Rennes 2. Après mon bac, je suis donc rentré en histoire de l'art et archéologie à l'époque, puisque l'archéologie est associée à l'histoire de l'art. J'ai donc fait un DEUG à l'époque, une licence et puis une maîtrise, hein, ce qui correspond aujourd'hui à un master 1 je crois. J'ai travaillé sur les bronzes antiques du chef-lieu des coriozolites, Corseul. Et c'était l'époque en fait où l'archéologie était un peu dans le vague encore, commençait à se structurer. Il y avait une association qui s'appelait l'AFAN à l'époque, l'association pour les fouilles archéologiques nationales, qui recrutait quelques personnes ponctuellement sur des chantiers qui étaient encore pas très nombreux. Et donc j'ai eu l'occasion de faire plusieurs contrats à durée déterminée occasionnellement pendant mes études. Et puis finalement, les contrats et le bénévolat que je faisais à côté ont pris la part sur mon temps d'études. Et effectivement, j'ai été obligé de passer plusieurs années pour finir ma maîtrise. Mais ça m'a donné quand même une expérience de terrain qui a été très bénéfique, hein, à côté de la théorie, je dirais, qu'on a à la fac. Et donc j'ai pu ensuite intégrer l'AFAN de manière plus régulière et j'ai été recruté en CDI en 1994 à l'AFAN. Et l'AFAN est devenue elle-même l'INRAP à partir de 2001 quand l'archéologie française s'est vraiment structurée et s'est vraiment professionnalisée à partir de cette époque-là.
Mais alors justement pour vous, comment vous définiriez l'INRAP et ses principales missions ?
L'INRAP est d'abord chargé de faire de l'archéologie préventive, c'est-à-dire d'intervenir avant les grands travaux, ou même les petits travaux d'ailleurs. Hein. On pense souvent aux aéroports, aux routes, etc. Mais dès qu'on fait un trou dans une ville pour y construire un bâtiment, on peut intervenir, vérifier s'il y a des vestiges, et puis éventuellement faire des fouilles par la suite. Là aussi, une mission de valorisation, hein, donc de communication, très importante, sous la forme de publications scientifiques, de colloques, de conférences, etc. Et puis de diffusion grand public. Donc ce sont les missions principales de l'INRAP.
Alors justement, donc l'INRAP, je le rappelle pour les auditeurs, hein, c'est l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive, au sein du CEL travaille la plupart des archéologues en France. Et justement, pour vous, qu'est-ce qu'être archéologue aujourd'hui ?
Alors là, c'est une bonne question. comme ça, de brûle pour point. Je dirais qu'on nous confine par celle d'histoire, en fait, hein, à chaque fois qu'on intervient sur un terrain. La communauté nationale nous confie un petit bout d'histoire qui est le patrimoine de tout le monde. On a donc une certaine responsabilité quand même à fouiller ou à intervenir en tout cas sur cette parcelle et en tirer le maximum. C'est du patrimoine commun qui nous faut transformer, puisque en général, quand on intervient, c'est de l'archéologie préventive, donc ce patrimoine va être détruit. Il est donc menacé et donc la charge de sauvegarder d'une certaine façon ce patrimoine sous une autre forme. Donc le décortiquer, je dirais, pour qu'on comprenne ce qu'il y a à cet endroit-là, et puis le retranscrire de façon claire, sous la forme de rapports d'abord, de relevés, et puis traduire en fait ce qu'il y avait dans le sol pour que tout un chacun puisse le comprendre. Si on fouille, par exemple, sur une villa romaine, on va dire, avant qu'on intervienne, on ne sait pas qu'il y a une villa romaine. Donc, c'est à nous de déchiffrer, en fait, tout ce qu'il y a dans le sol, à le traduire pour que chacun puisse le comprendre. Alors, on aura une traduction plus pointue pour la communauté scientifique et une traduction plus grand public pour tout un chacun. Donc, ça peut se traduire sous la forme de livres, de conférences, etc., comme je le disais tout à l'heure. Mais pour le grand public, ça peut être des expos, des animations, de la restitution 3D, des choses plus faciles à comprendre. Et voilà. Donc, un archéologue, en fait, c'est un peu un transcripteur entre les archives du sol et le public, qu'il soit scientifique ou grand public.
Donc, ça fait vraiment partie de vos principales missions.
Absolument, oui, c'est complètement nos missions. Hein. C'est vraiment c'est une mission de service public.
Et alors, ça, pour vous, c'est important de faire des médiations plus que des simples communications, des expositions, ce genre de choses?
C'est important de faire de la médiation pour la communauté scientifique comme pour la communauté nationale, que ce soit le scolaire, les gens qui viennent visiter nos chantiers, les musées, etc. Il faut que chacun y trouve son compte à son niveau.
Alors, à propos de médiation, on aimerait prendre un exemple un peu plus précis. La fouille du couvent des Jacobins que vous avez menée il y a quelques années et qui nous a particulièrement intéressés. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer l'origine de cette fouille et votre rôle, justement ?
Alors, la fouille du couvent des Jacobins, c'est une longue histoire qui a commencé pour nous en 2007, à l'époque où on a fait les premiers sondages. On a commencé par faire une première série de sondages à l'intérieur des bâtiments. D'abord, c'était à l'extérieur des bâtiments, en fait. Hein. C'était dans l'enceinte du couvent, mais dans les espaces extérieurs. Donc là, on a fait une première série de tranchées pour évaluer un petit peu le potentiel du site dans les espaces extérieurs. Et puis, on est revenu en 2009 pour faire une deuxième série de sondages dans les espaces intérieurs. Et à partir de là, on avait donc une idée du potentiel archéologique qui se cachait sous le couvent des Jacobins. Et à partir des données qu'on a recueillies, on avait matière à préparer la fouille, en fait, qui devait avoir lieu avant la construction du centre des congrès. La fouille qui, elle, a commencé en 2011, fin 2011, et qui a duré très longtemps, puisque on est parti du terrain en juin 2013. Donc c'est une très grosse fouille urbaine, une des plus grosses qu'on ait fait en Bretagne, qui a apporté beaucoup de choses. Et donc vous voyez, entre 2007, c'était février 2007, il me semble, jusqu'à 2013, on a déjà plusieurs années qui se sont passées. Mais ça ne s'est pas terminé là, puisqu'une fois qu'on a quitté le terrain, il a fallu faire toute l'analyse des données qu'on a recueillies pour, dans un premier temps, produire un rapport qui a été rendu en 2016, lui. Donc pratiquement 10 ans après les premières interventions sur le terrain, même plus si j'ose dire, puisque dès 2005, il y a une étude documentaire qui a été faite par une société privée qui s'appelait Atemporel, une étude documentaire, en fait, hein, une étude de texte. Donc, la véritable aventure archéologique du couvent des Jacobins, même pas quand nous, on intervient en 2007, mais dès 2005. Et donc, en 2016, on rend le rapport, mais ça ne s'est pas terminé là, puisque ça s'est poursuivi par deux expositions, une sur Louise de Kango, qui a été une des sépultures particulières qu'on a trouvées au couvent des Jacobins, et puis par une grosse exposition sur l'urbanisme de la ville de Rennes, qui a eu lieu entre 2018 et 2019. Voilà. Donc, en fait, c'est vraiment une aventure d'une dizaine d'années, hein. Qui a été très long, qui a impliqué beaucoup de monde dans des domaines complètement différents. Moi, j'étais responsable de la fouille, mais on a eu des anthropologues, des topographes, des techniciens, des spécialistes dans des domaines complètement variés qui sont intervenus, des laboratoires extérieurs. Enfin, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de monde qui sont intervenus sur cette fouille. Et aussi de la documentation, de la valorisation, pardon. Donc, dès la phase de terrain, on avait prévu de faire des visites, de faire des conférences, des portes ouvertes. Il y a eu deux grandes journées de portes ouvertes, deux grands week-ends même de portes ouvertes, pour les journées du patrimoine, pour les journées nationales de l'archéologie. Et donc, comme je le disais, la médiation ne s'est pas terminée avec la fouille, puisqu'on a ensuite fait deux expositions. Il y a un livre qui est sorti, des publications particulières, scientifiques, en public, des émissions de radio, des émissions de télévision. Enfin, c'est vraiment très, 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 très complet.
Vous avez tout de suite mis en place, en fait, des actions de médiation suite aux fouilles.
C'était prévu dès le départ. Dès l'appel d'offres, la réponse de notre appel d'offres prévoyait des actions de médiation.
Et est-ce qu'il y a des éléments, parce que des fois on a du mal en tant que, que novices en archéologie à comprendre qu'est-ce qu'apporte réellement l'archéologie hein, par rapport à l'histoire aux sources écrites. Est-ce qu'il y a justement des éléments que les sources écrites n'auraient jamais pu révéler dans les découvertes que vous avez faites au couvent des Jacobins?
Alors ce qui est intéressant, c'est qu'au couvent des Jacobins, on a toute une histoire qui commence à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, on va dire, et qui va jusqu'à nos jours. Donc sur un laps de temps aussi long, on a des périodes complètement différentes. Des périodes où on a de la documentation, donc pour le couvent des Jacobins, on a toutes les archives depuis la fondation du couvent. Donc on peut comparer les archives, ce qui apparaît dans les textes, avec ce qu'on a sur le terrain. Et donc pour le couvent lui-même, on avait beaucoup d'informations sur le fonctionnement du couvent, mais très peu d'informations sur son architecture, en fait, qui avait été complètement transformée à partir de la Révolution, puisque le couvent était devenu un lieu de stockage pour l'armée. Donc ils avaient complètement modifié les volumes pour pouvoir stocker de l'habillement essentiellement, des vivres, voilà, c'était devenu un magasin militaire. Et donc l'archéologie a permis de retrouver l'architecture initiale du couvent en démontant tous les aménagements militaires. Et donc de retrouver une architecture qu'on pouvait comparer avec l'architecture habituelle des ordres mendiants, en l'occurrence des dominicains, mais qu'on ne pouvait pas comparer avec ce qu'on avait dans les textes, parce qu'on nous parlait très peu de l'architecture du couvent. Donc on a complété ce qui était dans les textes, ce qui apparaissait pas dans les textes pour le couvent. Pour les autres périodes, l'archéologie a amené encore plus de choses, je dirais, puisqu'on n'avait pas de texte. Très peu d'informations sur ce qui se passait avant la construction du couvent des Jacobins autour de 1368-1369. Donc depuis la fin du 1er siècle jusqu'à 1369, il s'est quand même passé énormément de temps pour lesquels, énormément de siècles pour lesquels on n'avait aucune information. Donc on avait quelques idées pour la fin du Moyen-Âge, puisque les premiers documents qui parlent du couvent des Jacobins font allusion à l'environnement médiéval dans lequel il s'est implanté. Donc on savait qu'on avait des manoirs, par exemple, on avait quelques idées sur les chemins qui passaient dans le secteur, et puis ça s'arrêtait là. Mais bon, ça nous donnait une information sur l'état des lieux, je dirais, au XIIIe, XIVe siècle, quoi, mais pas avant. Donc l'archéologie nous a apporté vraiment beaucoup de données sur ce qui se passait au cours du Moyen-Âge, et puis surtout à l'époque romaine, où là, on n'avait absolument aucune information, si ce n'est l'environnement qui nous était donné par les fouilles qu'on avait pu faire autour. Donc le couvent des Jacobins, par sa superficie, l'emprise des terrains du couvent des Jacobins en tout cas, qui faisait 8000 m², était une pièce du puzzle très importante au milieu de la ville antique, qui nous ont permis de compléter quand même pas mal de choses sur l'époque romaine, donc entre le 1er et le 4e siècle après Jésus-Christ. Voilà, donc l'archéologie en l'occurrence, pour cet exemple, apporte des choses que l'histoire, l'étude des textes habituels nous donne absolument pas pour Rennes.
Et justement, par rapport à toutes ces actions de médiation, notamment pour le couvent des Jacobins dont vous venez de nous parler, est-ce que vous avez été satisfait de la communication de l'INRAP justement auprès des publics?
Ben, je dirais que c'est au public de nous répondre là-dessus. Nous, on a fait le plus possible, le mieux qu'on pensait faire en tout cas. J'ai l'impression que ça a été plutôt bien perçu, en tout cas quand on a fait nos journées portes ouvertes, on a eu énormément de monde, hein. Des milliers de personnes sont venues visiter le couvent des Jacobins. La deuxième journée a même été plus importante que la première, on faisait la queue jusqu'à la place Sainte-Anne et on a eu de la visite pendant les deux jours du week-end, hein. Donc ça a été un vrai succès qui, je pense, a été bien perçu. Voilà, après, on a fait des conférences dans le couvent des Jacobins, une fois qu'il a été ouvert, on a eu aussi pas mal de monde. On a vraiment eu l'impression d'avoir un véritable engouement. Hein. Moi-même, j'ai fait plusieurs conférences pendant le chantier où il y avait toujours plein de monde. L'exposition a été aussi un beau succès. Voilà, donc je pense que ça a été plutôt bien perçu. En tout cas, ça a intéressé les gens que ça devait intéresser. C'est pareil, on a essayé d'ouvrir le couvent des Jacobins autant que possible pendant le chantier à des groupes scolaires. Le problème, c'est qu'évidemment, on était sur un chantier assez particulier avec des élévations importantes. Donc il fallait qu'on fasse aussi, j'en ai pas parlé, toute l'étude du sous-sol, mais on avait aussi toute l'étude du couvent à faire avec ces élévations qui dépassaient les 15 mètres de haut. Donc on a été obligé de démonter pas mal de choses, d'enlever tous les crépis, de faire toute l'étude de bâti. Donc c'était très complet. Et évidemment, sur un chantier de ce type-là, il y a quand même des dangers. On peut se cogner la tête, il peut y avoir des choses qui tombent. Donc il y a une mise en sécurité qui est très, très draconienne et on ne peut pas forcément amener du public pendant toute la durée de l'opération, qui a duré, donc je disais, 1 an et demi, pendant toute la durée de l'opération. Il fallait donc prévoir des moments où on aménageait le chantier de façon à pouvoir avoir les autorisations pour amener du public. Donc là, c'est pareil. Je pense que des gens ont sans doute, à un moment donné, été frustrés de ne pas pouvoir rentrer. Donc c'est pour ça qu'on a fait ces journées portes ouvertes particulières, parce qu'il n'était pas possible, étant donné les conditions de sécurité, parce qu'on reste quand même dans le cadre d'un chantier, il n'était pas possible de faire rentrer en permanence des visiteurs sur le chantier. Voilà. Donc c'est un peu le bémol. Il faut qu'on arrive à faire en sorte de pouvoir travailler tout en ouvrant le chantier au public, mais pas... Enfin, à des moments particuliers, pas en permanence, puisqu'il y a des conditions de sécurité à respecter et il y a une législation qui nous y oblige, en fait. Voilà.
Vous pensez que ce succès, il est dû à un effet un peu waouh des fouilles, ou en général, vous êtes, les outils de médiation mis en place par l'INRAP ont ce genre de succès ?
Alors, je pense qu'il y a effectivement un intérêt pour les fouilles archéologiques en général. On a essayé aussi d'entretenir cet intérêt en mettant, par exemple, à l'extérieur du couvent des expositions photos pendant le chantier, des panneaux d'information qu'on changeait à peu près tous les 2-3 mois en fonction de l'évolution de la fouille pour pouvoir donner l'information en direct, je dirais. Il y a toujours un intérêt, surtout un chantier de cette ampleur-là, au milieu de Rennes, bon, il passe difficilement inaperçu, il intéresse des gens. On ouvrait les portes quand on le pouvait, de façon à ce que les gens puissent au moins voir les archéologues en train de travailler. Autant que possible, on leur donnait quelques indications quand on était à proximité des portes. On ne pouvait évidemment pas faire rentrer les gens sur le chantier, mais les gens pouvaient au moins voir, un minimum, je dirais. Donc il y a toujours un intérêt du public à voir travailler des archéologues. Ça fait toujours un peu rêver, hein, si j'ose dire, même si ce n'est pas toujours glamour. Hein. Parfois, on est dans la gadoue, à quatre pattes, à tirer des brouettes. C'est pas forcément, c'est très ingrat aussi, l'archéologie. Hein. Mais il y a forcément des belles découvertes, hein, à certains moments, des murs en élévation. Et puis, au couvent des Jacobins, il y avait beaucoup de squelettes. Donc ça fait un peu travailler l'imaginaire. Les squelettes, ça attire un peu les gens. Donc ça aussi, ce côté waouh, comme vous dites, est un peu lié à ça. Après, on a essayé de mettre en place aussi des outils de médiation assez sympathiques, hein, même pendant les portes ouvertes. On avait des stands, on avait des plaquettes, des jeux pour les enfants qui essayaient d'expliquer les choses de façon pédagogique et en étant sympathiques, hein, aussi, clairs. C'est aussi tout le travail que fait notre équipe de chargés de communication. C'est eux qui ont beaucoup œuvré pour cet aspect-là. Hein. Nous, on leur donnait les informations et puis c'est elles qui travaillaient sur ces aspects de communication auprès du public. Hein. Voilà, c'est un métier aussi, j'ai envie de dire. Hein. Voilà, c'est leur métier. Je pense que ça a bien fonctionné. Ouais, je pense que ça a bien fonctionné.
Vous avez parlé d'outils de médiation. Est-ce que vous-même, vous en avez conçu ou est-ce que vous savez quels sont les grands outils de médiation en général qu'utilise l'INRAP, du moins à Cesson-Sévigné ?
Comme je vous disais, on a fait toute une série de plaquettes. Donc moi, je donnais l'information, j'écrivais les textes de façon claire, autant que possible. C'était relu justement par les chargés de com, de façon à ce que ça soit accessible au public. On fournissait des photos, on fournissait des plans qui étaient retravaillés. Parfois mis en 3D ou en dessin en particulier. Les archéologues font ça, quoi. Donnent la matière première et ensuite c'est retranscrit sous forme de plaquettes, de photos, de plans, de films aussi. On a fait toute une série de films pendant la fouille. Donc on avait un réalisateur qui nous suivait et pendant les 1 an et demi, on mettait sur internet un film tous les 2 mois à peu près. Et il y a un film en fait de 52 minutes qui a été fait à la fin de l'opération aussi et qui a été diffusé sur TV Rennes, donc à plusieurs reprises. par exemple. Donc voilà, c'est là on voit les gens en train de fouiller. Justement, ça éliminait un petit peu toute la frustration que le public pouvait avoir, puisque du coup, on permettait quand même aux gens, même si c'était à travers un film, de voir un peu les archéologues travailler, les découvertes se faire au fil du temps, quoi. Un peu en direct aussi avec les petits films qui venaient tous les deux mois. Et puis, à la fin de l'opération, bah, on avait déjà une vision plus claire de ce qu'on avait trouvé et on pouvait pratiquement donner les premiers résultats, je dirais, de cette opération au public. Donc c'était quand même assez satisfaisant pour nous aussi de pouvoir le faire, pouvoir transmettre déjà des choses à la fin de la fouille.
Vous parlez de transmettre, mais est-ce que vous, personnellement, vous avez déjà mené des actions de médiation ?
Ah oui, moi j'intervenais en fait, comme là, pour la radio, pour la télé, j'ai fait des interviews, donné des explications filmées, fait des conférences, comme je disais tout à l'heure, participé aux visites guidées plusieurs fois, donc pour les grands publics comme pour des VIP, on va dire, hein, qui venaient sur le chantier. Ouais, moi ça fait partie aussi de mon travail, hein. C'est pas toujours évident de trouver le temps de le faire, surtout sur une fouille pareille qui nous prend beaucoup de temps en tant que travail archéologique, mais il faut essayer de trouver de pouvoir se dégager du temps pour faire de la médiation, bien sûr.
Et est-ce que vous avez justement un public, j'allais dire favori, mais en tout cas que vous appréciez particulièrement, parmi, je peux penser aux enfants, aux familles, aux personnes âgées, ou tout public est bon à prendre?
Tout public est bon à prendre. À partir du moment où les personnes sont intéressées, même poser des questions, cherche, il n'y a pas de questions idiotes, hein, au contraire, hein, plus on pose des questions, plus ça m'intéresse, moi. Tous les publics sont vraiment intéressants, hein. Le novice total, comme la personne un petit peu érudite, qui va aussi pouvoir peut-être nous apporter des choses à nous. Moi, ça m'intéresse. Les enfants sont particuliers, effectivement. J'ai des collègues qui adorent travailler avec les enfants, hein, qui sont... Il y a des céramologues ou des gens qui travaillent sur des... Les anthropologues, par exemple, aiment bien expliquer aux enfants comment ça fonctionne, leur métier. On a des jeux aussi, on peut faire monter des petites céramiques, jouer avec des puzzles, expliquer comment est fait un squelette. Voilà, ça plaît beaucoup aux enfants. À partir du moment où ils manipulent, où ils essaient de répondre à un jeu, à une question, ça marche très bien. Et puis nous, quand on voit que ça marche, ça nous plaît énormément, quoi. Oui, voilà, vraiment l'impression de transmettre quelque chose.
J'imagine. Ouais. Mais d'ailleurs, vous allez, ça vous arrive de faire des interventions dans des écoles, par exemple?
Ah, tout à fait, ouais. Ouais. Moi, je suis déjà intervenu dans toutes les classes, hein, depuis la primaire jusqu'au lycée ou en fac. Voilà, moi, j'interviens régulièrement pour expliquer les choses. Alors, justement, on essaie d'adapter son discours à chaque niveau. Et c'est ça qui est rigolo. Hein. Pour les primaires, par exemple, on va mettre des images un petit peu rigolotes ou intervenir là aussi sous forme de jeu. Questions-réponses, essayer de faire deviner des choses. Et puis, quand on a affaire à un public plus adulte, on va dire, là, c'est beaucoup plus cours magistral. C'est autre chose, c'est intéressant aussi. Mais du coup, ils ne comprennent pas les choses de la même façon. Donc, on ne transmet pas la même chose. En tout cas, on ne transmet pas de la même façon. Donc c'est ça qui est bien aussi, c'est très varié et moi j'aime bien. Ouais, ouais.
Et c'est les écoles qui viennent directement vous chercher ou ça passe par le service com en général ?
Il y a un peu les deux. Souvent, c'est les archéologues qui sont sollicités quand même. Et du coup, nous, on passe par le service com. On remet le service com dans le jeu de façon à avoir des moyens, de façon à ce qu'ils nous aident. Mais souvent, les archéologues sont directement sollicités. Ouais. Alors après, ça dépend. Sur les chantiers, on a souvent déjà une médiation qui est prévue. Donc, on essaie de l'organiser. Et après, en post-fouille, on est souvent sollicité par des instituteurs, des profs pour venir faire une intervention. Alors on essaie de s'organiser, mais voilà, ça se joue comme ça. Mais c'est les archéologues qui vont dans les classes, c'est pas les chargés de communication. Les chargés de communication mettent en place, je dirais, les moments où on va y aller, où les font le lien, mais ceux qui interviennent dans les écoles, ce sont en général les archéologues. Qui peuvent être appuyés, je dirais, par les chargés de com qui vont les apporter des plaquettes, organiser l'intervention. Mais ceux qui vont expliquer les choses, c'est les archéologues. J'ai même eu l'occasion de travailler sur un centre d'interprétation, le montage d'un centre d'interprétation, donc ça c'était intéressant aussi, sur Carré. Donc ça, voilà, on a l'impression d'aboutir en fait. Quand on commence une fouille et puis qu'à la fin on a une publication ou un centre d'interprétation qui s'ouvre, voilà, on a vraiment l'impression d'arriver au bout du truc et c'est satisfaisant quoi. C'est, le but c'est de voir, on ouvre un site et puis à l'autre extrémité on a la diffusion. Donc sous forme de diffusion à la communauté scientifique ou au grand public. Et donc quand on arrive à faire les deux, bah, la boucle est bouclée, on peut passer à autre chose. Donc j'ai fait pas mal de choses, hein, du coup bah, j'ai envie de continuer à le faire, voilà, c'est tout, hein, c'est déjà pas mal. Et puis avoir des beaux projets, ouais, déjà des opérations comme le couvent des Jacobins ont ouvert pas mal de, ont permis de faire pas mal de choses différentes. Comme je vous disais, hein, on a fait des bouquins, on a fait des expos, on a fait des visites, des conférences, on a vraiment, je crois qu'on a, on a tout le panel là, quasiment de tout ce qui est possible dans la valorisation.
Ouais, et puis tout à l'heure, en tout cas, on parle des publics, mais je me demandais aussi sur un autre aspect, à savoir, je sais que vous travaillez des fois avec des associations, je pense notamment à, on a parlé tout à l'heure, hein, d'Alter Ego, qu'on a interviewé il y a quelques semaines maintenant. Dans quelle mesure, justement, vous travaillez avec ces associations qui font un peu le même travail que vous, en termes de médiation, j'entends?
Alors souvent, elles sont. Je sais qu'Alter Ego intervient quand on fait les JNA, par exemple, les Journées Nationales de l'Archéologie, ou les Journées du Patrimoine. Ils ont des stands que nous, on met souvent en place des villages de l'archéologie, villages des sciences, et c'est vrai qu'ils viennent en appui nous aider à animer un petit peu ces villages des sciences, ces stands, avec ce qu'ils ont pu préparer, hein, des petites maquettes, voilà, leurs connaissances pour expliquer aux gens ce qu'est l'archéologie. C'est toujours intéressant d'avoir des étudiants, parce qu'en général ce sont des étudiants qui viennent aussi participer à ces journées. Et puis nous, on peut aussi leur expliquer des choses, la façon professionnelle, je dirais, de voir un petit peu la médiation. Ça rentre aussi dans leur propre formation. Donc voilà, donc au contraire, c'est un vrai partenariat, je pense, hein. C'est un échange en fait, hein. Il n'y a pas de concurrence par exemple, c'est au contraire une collaboration, et il faut que ça reste comme ça.
Je vais terminer cette interview en vous remerciant d'être venu. Merci d'avoir participé. Merci aussi aux auditeurs d'avoir écouté Truelle et Sac à dos avec monsieur Gaëtan Lecloirec de l'INRAP, de la direction régionale du Grand Ouest à Cesson-Sévigné.
Merci aux étudiants de la promotion 2021-2022 du Master 2 en médiation du patrimoine d'avoir accompagné Truelle et Sac à dos pour cette première saison. Un grand merci à Gaëtan de s'être prêté au jeu et de nous avoir parlé ouvertement de son métier et des diverses formes qu'il peut prendre. Aujourd'hui, après 20 ans d'existence, l'INRAP contribue et participe à la transmission des connaissances en archéologie quasi systématiquement. Mais le chemin est encore sinueux pour reconnaître clairement le rôle de la médiation en archéologie. Des problématiques de formation adaptée, de reconnaissance de métier ou bien encore de valorisation des contenus créés restent à solutionner. Avec Archéolab, nous souhaitons étudier plus amplement le sujet dans les années à venir et nous comptons bien tout vous partager ici, dans Truelle et Sac à dos et via nos réseaux. Alors n'hésitez pas à nous suivre sur Radio Évasion ou sur votre plateforme de podcast préférée. À bientôt !